Des chercheurs suisses viennent donc de démasquer un des potentiels coupables, un des responsables de la narcolepsie. Ces résultats viennent d'être publiés dans la revue Nature. Alors la narcolepsie, il faut le rappeler, c'est une maladie neurologique, en fait, neurologique rare même, en fait c'est un trouble du sommeil.
Oui, et une maladie, Silvio, très invalidante. La narcolepsie se caractérise par des envies rapides et irrépressibles de dormir. C'est une maladie cérébrale chronique. Les patients qui en sont atteints à environ 0,05% de la population s'endorment d'un coup, dans la rue, en plein repas ou au travail. Ils sont souvent atteints de cataplexie, c'est-à-dire qu'ils perdent le contrôle et le tonus de leurs muscles. Alors d'où vient cette envie subite de dormir? Eh bien, la mort de cellules cérébrales qui produisent une protéine qui stimule et régule l'éveil. Cette protéine s'appelle l'hypocrétine. Alors ça, on le savait. Comme on savait également que la narcolepsie est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que notre système de défense se retourne contre nous. Mais ce qu'on ne savait pas et qu'on ne pouvait pas démontrer, c'est le lien entre les deux. Le système immunitaire, les lymphocytes T, c'est-à-dire les globules blancs, et la production d'hypocrétine. Et c'est là qu'entrent en jeu les scientifiques suisses, ceux de l'Institut de recherche en biomédecine à Bellinzone et ceux de l'hôpital universitaire de Berne.
Bonjour Claudio Bassetti.
Bonjour à vous.
Vous êtes responsable du département de neurologie à l'hôpital de Lille à Berne et vous vous êtes occupé justement de la partie clinique de cette étude. Alors, ce lien entre système immunitaire, lymphocytes T et production d'hypocrétine, c'est quoi ?
Bon, alors, j'aimerais souligner le fait qu'il y avait aussi des Lausannois. Le team de Monsieur Mehdi Tafti était aussi fait partie de cette initiative que vous avez bien souligné être suisse. Donc, ce qu'on savait, c'est effectivement le fait qu'il y a une perte de ces neurones dans une zone spécifique du cerveau qui s'appelle l'hypothalamus. C'est des neurones qui produisent l'hypocrétine. On savait aussi depuis une trentaine d'années qu'il y a une prédisposition génétique qui est probablement liée au système immunitaire. C'est un marqueur, un gène qu'on dit être le HLA, gène HLA. Et on savait qu'il y a des facteurs déclenchants qui viennent de l'environnement, donc des infections, même voire des vaccinations. Mais le mécanisme qui amène effectivement à la destruction des neurones à travers la prédisposition génétique et les facteurs environnementaux était inconnu. Ce qu'on a découvert maintenant, justement, dans cette collaboration entre les cliniciens et les scientifiques de base, c'est un mécanisme lié à des lymphocytes T, des cellules qui amènent, qu'on a découvert être ciblées justement à des éléments, à des portions de ce peptide, de cette protéine qu'on appelle l'hypocrétine. Donc ces cellules reconnaissent l'hypocrétine et c'est à travers ça qu'on pense qu'il y a la destruction des neurones, donc à hypocrétine. Probablement ces cellules qu'on a identifiées, qui sont spécifiquement présentes dans le sang, des cellules mémoire, donc qui se souviennent de ce contact, de cette spécificité, ne sont pas seules responsables de cette destruction, mais ils sont probablement très directement impliqués. Et le futur va nous dire quels sont les autres acteurs qui participent à cette destruction.
Ouais, donc en fait, dans le fond, les lymphocytes T se trompent, voient ces cellules, voilà, qui produisent l'hypocrétine et les éliminent, quoi.
Voilà. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est l'idée fondamentale. Maintenant, pourquoi on a perdu ce contrôle, cette tolérance, comme on dit? Ça, c'est une question encore fondamentale qu'on n'arrive pas bien à comprendre. Il y a peut-être justement des facteurs liés à des infections, mais peut-être aussi d'autres facteurs qu'on n'a pas encore bien identifiés.
Mais comment justement, Claudio Bassetti, vous y êtes pris pour démontrer le lien entre lymphocytes T, hein, et production d'hypocrétine? Vous avez travaillé sur des...
On a pris du sang, voilà. On a pris du sang des malades et on a pris aussi du liquide céphalorachidien. Et à travers des systèmes avec une technique très sensible et très spécifique, on a pu identifier des clones, comme on dit, donc des très peu de cellules qu'on a pu cultiver et voir qu'ils se multiplient, s'augmentent dans des cultures d'une façon spécifique en présence de l'hypocrétine. Donc il y a ce lien spécifique. Et à ce moment-là, on a pu déterminer aussi contre quelle portion de la protéine ces cellules réagissent. Donc, si vous voulez, ça a été un effort qui a amené au succès grâce à la sensitivité du méthode. On a pu détecter très peu de cellules et au fait qu'on a pu travailler sur une spécificité très, très haute. Et les deux nous ont amené là où d'autres avaient essayé avant et n'avait pas eu le succès.
Vous avez travaillé sur du sang, enfin, de patients atteints de narcolepsie et des porteurs sains également, hein.
Ouais, c'est des porteurs sains, dans porteurs du même, si vous voulez, marqueur de la même prédisposition génétique, parce que justement, on voulait différencier la présence de la maladie vers la prédisposition. Et c'est là qu'on a vu que chez des, comme vous dites, vous porteurs sains du même facteur prédestinant, si on peut dire comme ça, et par rapport aux patients, la différence était la production, la présence de ces cellules.
Mais qu'est-ce qui déclenche justement la narcolepsie, on sait ?
Voilà, justement. Il y a une prédisposition génétique qui est là dans 10 à 40% de la population, donc c'est un marqueur qui est présent chez des sujets sains. Et puis, on pense, sur la base d'études épidémiologiques de grandes populations, qu'il faut, en plus de cette prédisposition génétique, des facteurs de l'environnement, je disais avant des infections, même des infections banales, et c'est les deux facteurs, prédisposition génétique et des facteurs de l'extérieur, qui amènent après à cette perte de tolérance immunologique, et donc production ou perte du contrôle des T-lymphocytes. Donc ça, si vous voulez, c'est le facteur déclenchant qui se réalise sur la base génétique et amène à la production de ces, ou la présence de ces cellules qui, à la fin, sont impliquées dans la perte neuronale. On ne sait pas exactement la séquence des facteurs qui amènent ces cellules à être si importantes. Sur la base d'autres maladies, on pense qu'il y a peut-être aussi des anticorps. Peut-être il y a aussi des autres populations de T-cellules, donc de lymphocytes qui sont impliqués. Donc on imagine bien que c'est pas seulement ces cellules qui sont responsables, mais ils semblent jouer un rôle important.
Cette maladie, elle touche plutôt les enfants, les adolescents. Est-ce qu'on sait pourquoi ?
C'est surtout les adolescents. C'est donc une grande majorité des patients tombe malade autour des 10-20 ans, donc c'est l'adolescence. Il y a un deuxième pic autour des 50 ans, donc c'est pas seulement l'adolescence. Et ça peut rarement aussi, peut-être 5 à 10% des cas, débuter avant, si vous voulez, avant l'adolescence. Pourquoi ? Probablement c'est la prédisposition génétique liée au système immunitaire qui fait cette prédilection pour l'adolescence, comme d'ailleurs d'autres maladies lié à un système, au système immunitaire qui n'est plus tolérant, si on peut dire comme ça.
C'est une maladie difficile à détecter, sous-diagnostiquée. Vos résultats, justement, vont permettre un diagnostic un peu plus fiable ?
Bon, alors, je pense que, et c'est pour ça que je suis content que vous vous intéressez à ça, que le fait d'avoir maintenant trouvé, disons, peut-être le mécanisme qui amène à la perte neuronale puisse susciter la curiosité du grand public et aussi des médecins autour d'une maladie qui est plutôt mal connue. On espère que ces examens très spécifiques du système immunitaire dans le sang puissent un jour amener à un diagnostic plus précoce et plus précis. On n'est pas encore là, mais certainement on sait qu'une grande majorité de patients n'arrivent pas à l'attention des médecins. Et c'est lié aussi au fait que dans la population générale, on a la tendance à sous-estimer la somnolence. Donc l'envie de s'endormir, il est vu souvent comme une manifestation d'une perte du sommeil, donc de manque de sommeil banal. On ne dort pas, donc c'est pour ça qu'on a ces envies rapides et irrépressibles de dormir. Et puis le fait que la cataplexie, qui est plutôt spécifique de la narcolepsie, donc cette perte du contrôle moteur des muscles lors des émotions subites, le rire, une blague, ça amène pas toujours à une chute. Et donc c'est pour ça que les patients même pensent que ces petits accès de perte du contrôle moteur soient même normaux, ou en tout cas pas manifestation des maladies. Donc les deux choses amènent au fait que on voit très peu de patients à la fin. Mmh. Et il faudrait les voir avant. Il y a aussi la possibilité que, à travers cette découverte, on aille peut-être une vision sur des formes plus légères de la maladie. Parce que nous, on a vu dans le travail qu'il y a en fait des patients qui n'ont même pas encore de cataplexie, donc qui ont seulement une somnolence importante. Et chez ces patients, c'est peut-être aussi l'option, la possibilité de prévenir, si vous voulez, le développement de la maladie complète. Et là, c'est la grande question. Est-ce qu'on peut faire un diagnostic plus précoce et peut-être faire aussi une intervention thérapeutique qui pourrait éviter cette évolution?
Alors ouais, on est encore loin du diagnostic, d'accord, mais je pense que donc du coup on est aussi très très loin, et rapidement s'il vous plaît, on est aussi très très loin d'une guérison possible.
Oui, alors on a des traitements symptomatiques, donc on peut traiter la somnolence, on peut traiter la cataplexie, donc c'est perte du contrôle moteur, mais jusqu'à maintenant on avait très peu de cas, surtout des cas qui sont diagnostiqués disons très tôt, donc dans les jours, dans les semaines qui suivent la manifestation. Donc dans ces cas-là, on a vu que des traitements immunomodulateurs pourraient peut-être avoir une influence positive sur le développement, disons, qui suit de la maladie. Maintenant, la question fondamentale, est-ce que les données qu'on vient de publier, est-ce que ça suffit pour justifier des interventions si agressives? Ça, on le sait pas encore, mais évidemment, c'est la question de base. Donc,
d'accord.
Est-ce qu'il y a déjà la possibilité de cibler, si vous voulez, le système immunitaire pour prévenir, si vous voulez, l'évolution vers une forme de maladie complète? Et là, c'est la question que le futur va nous aider à répondre. Mais c'est une question fondamentale, évidemment.
Le futur et les chercheurs. Merci beaucoup, Claudio Bassetti.
Merci à vous de l'intérêt et bonne journée.
Bonne journée. Claudio Bassetti, qui est donc responsable du département de neurologie à l'hôpital de l'Île de Berne et qui répondait à l'invitation de Sarah Diron.